Le journal de la rédaction par Thomas Schenner, bonjour.
Bonjour Florian, bonjour à tous. Le temps est-il venu de quitter les ronds-points? 2019 approche et certains gilets jaunes commencent sérieusement à envisager la création d'une liste pour les élections européennes. Sur les réseaux sociaux, dans le même temps, une manifestation se prépare pour réclamer la fin des blocages.
Et puis c'est une première pour Donald Trump. Le président américain s'est rendu hier soir en Irak. Donald Trump qui justifie une nouvelle fois sa décision de retirer les troupes engagées en Syrie.
C'est une décision inédite celle-ci et qui pourrait faire jurisprudence. La justice ordonne à l'État belge de rapatrier 6 enfants de djihadistes. La Belgique confrontée au même cas de conscience que la France, ces enfants sont actuellement dans des camps de réfugiés tenus par les Kurdes.
Et puis avec le coup de froid sur les marchés financiers, nouvelle crise est-elle à l'horizon? Ça sera notre question du jour. On posera la question à Sébastien Jean.
L'hypothèse a été posée il y a plusieurs semaines déjà. Et si les gilets jaunes se présentaient aux élections européennes? Eh bien, selon un sondage publié il y a quelques jours, leur liste recueillerait 8% des suffrages, soit autant que les républicains. C'est une hypothèse, mais elle se précise. Plusieurs figures du mouvement se sont rassemblées, des personnes réunies sous la bannière Coordination nationale des gilets jaunes. Une réunion pour travailler la stratégie électorale. Alexandre Jardin était de la partie, l'éphémère candidat à la dernière élection présidentielle était présent notamment pour les conseiller Élodie Forêt.
Si une liste gilet jaune émerge, son nom n'y sera pas ou alors en dernière place. Alexandre Jardin se définit comme un consultant plus qu'un meneur. Son objectif, convaincre les gilets de ne pas établir un inventaire à la Prévert de revendications, mais de se concentrer sur un changement de système global. Leur angle d'attaque pour les européennes, dit Jardin, ce doit être la décentralisation, que le citoyen puisse peser. Conseil donc sur le programme, sur la façon aussi de communiquer et de rassembler. On crée en ce moment les conditions pour que cette liste se réalise, confirme le gilet jaune Jean-François Barnaba. Alexandre Jardin, loin d'être le seul à graviter autour du mouvement, de Francis Lalanne à Bernard Tapie, en passant par le Parti communiste ou le Rassemblement national qui souhaitent les accueillir sur leur liste. Ils sont nombreux à vouloir aider les gilets à passer des ronds-points au bulletin. Un exercice périlleux tant la défiance du politique reste vivace au sein du mouvement.
Les gilets jaunes qui depuis le départ ont pris l'habitude de s'organiser sur les réseaux sociaux, et bien forcément, la stratégie fait des émules dans le camp d'en face. Les foulards rouges sont en train de préparer leur propre manifestation à Paris, une marche républicaine des libertés. Ces foulards rouges qui, eux, réclament la fin des barrages. Thion Goyer.
Un lien Facebook partagé par un ami. C'est de cette manière qu'Olivier Ponsoy a découvert l'appel à se rassembler le 20 janvier prochain. Pour le référent La République en marche des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris, ce sont les violences aperçues lors des récentes mobilisations des Gilets jaunes qui l'ont convaincu de cliquer sur « Je participe ».
C'est toujours compliqué quand on est majorité silencieuse. Mais il y a un moment, si vous voulez, où la goutte, le vase déborde. Quand vous voyez les fins de manifestations et tous les dégâts qui sont causés, y compris des dégâts psychologiques. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Qu'est-ce que ça donne à voir? Tout ce qui consiste à casser gratuitement, c'est pas acceptable.
Du côté de l'organisation de l'événement Les Foulards Rouges, on explique d'abord que le rassemblement ne se fait pas contre le mouvement des Gilets jaunes, mais pour que ces manifestations soient légales, sans heurts, et pour que les blocages s'arrêtent autour des ronds-points. Théo Poulard, administrateur du collectif.
Un appel à cesser les blocages, parce que non seulement ils demandent des revendications pour faire monter le pouvoir d'achat, pour faire que les Français ils aient un meilleur salaire, mais derrière, ils mettent l'économie du pays à terre en bloquant tout ça. Donc c'est complètement illogique. Mais on ne demande pas qu'ils arrêtent, ils font ce qu'ils veulent, mais qu'ils le fassent légalement.
Cette marche en remplace en fait une autre. À l'origine, un appel à venir soutenir Emmanuel Macron avait rassemblé sur les réseaux sociaux plus de 2500 personnes. Un appel trop politique pour Théo Poulard.
On ne soutient pas M. Macron, il y en a qui ont voté pour, il y en a qui ont voté contre. Donc il est hors de question de porter quel que soit soutien à M. Macron, c'est juste. Défendre notre République, défendre notre démocratie, ça aurait été n'importe quel autre président, on l'aurait fait.
Un nouvel événement a donc été créé hier soir sur Facebook et sur le site des Foulards Rouges.
Le reportage de Steven Goyer pour France Culture. La garde à vue de Peter Chérif est terminée. Le djihadiste français a été déféré cette nuit au parquet de Paris pour exécuter une peine de prison qui remonte à 2011. Peter Chérif qui risque par ailleurs une mise en examen, cette fois pour association de malfaiteurs terroristes criminels, une qualification en lien avec son dernier séjour au Yémen. Peter Chérif qui était un proche des frères Kouachi, les auteurs de l'attentat de Charlie Hebdo, mais son implication directe en tant que donneur d'ordre reste encore à prouver. Dans le Pas-de-Calais, les migrants continuent de vouloir passer en Angleterre par tous les moyens. Depuis le mois d'octobre, les tentatives de traverser de la Manche se multiplient, des tentatives qui parfois aboutissent. Pour la seule journée de Noël, les gardes-côtes britanniques ont pris en charge une quarantaine de réfugiés. Dans le port de Boulogne, les pêcheurs demandent à l'État d'intervenir puisque ce sont bien leurs bateaux qui servent pour les traverser. C'est un reportage de Mathieu Darrier.
En arrivant à 2h du matin pour partir en mer, Jean-Marie, le patron du Murex et son équipage ont découvert les dégâts.
On s'est aperçu que la serrure de la porte de la passerelle était fracturée. Donc nous, on a réussi à ouvrir tant bien que mal. Donc on voit que quand même que les pouvoirs publics fassent quelque chose pour nous. Quoi, parce que là, si c'est nous qu'on prend le relais de monter la garde, je crois que ça va mal se passer. Vous avez la vedette en face de nous, la vedette gendarmerie maritime. Elle pourrait aussi faire des contrôles aussi. Je sais pas, c'est pas nous de faire la police. Si nous on fait la police, ça va mal se passer. Alors.
La colère des pêcheurs est renforcée par l'annonce des premiers dégâts sur le Sainte-Catherine, volée durant le week-end, le moteur doit être changé, mais l'assurance invoque une vétusté de 90%. Ce que les professionnels ont dit au sous-préfet Jean-Philippe Venin, il annonce un renforcement de la surveillance.
On est en train de voir dans un premier temps des solutions de court terme, des patrouilles de police la nuit, et puis réfléchir à une solution de moyen terme. Il faut passer par du gardiennage, vraisemblablement. Un appel à la vigilance de l'ensemble des patrons pêcheurs, mais de tous les acteurs du port, parce qu'effectivement, on sait que les conditions météo sont plutôt favorable en ce moment, période de pleine lune, mer calme, donc cela incite les réseaux de passeurs à tenter la traversée, donc il faut qu'on soit particulièrement vigilant.
La semaine dernière, déjà, l'État avait réuni les maires des communes du littoral pour les inciter à cette vigilance.
7h06 sur France Culture, la suite du journal avec vous, Thomas Schenner. Et pour sa première visite dans une zone de conflit, Donald Trump a donc choisi l'Irak.
Oui, le président des États-Unis qui est allé saluer hier soir des soldats sur une base militaire. Les États-Unis, selon Donald Trump, ne peuvent pas continuer à être le gendarme du monde. Le président justifie une nouvelle fois sa décision de retirer les troupes américaines engagées en Syrie. Écoutez.
L'une des raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui, c'est d'abord pour vous remercier, vous, les militaires déployés dans cette région. Merci d'avoir éliminé le califat de l'État islamique en Irak et en Syrie. Il y a 2 ans, quand je suis devenu président, ce groupe dominait la région. Aujourd'hui, ils ne dominent plus tant que ça. Vous avez fait un boulot extraordinaire. Je regardais une carte et il y a 2 ans, toute la carte était en rouge. Maintenant, il ne reste que des petits points. Ça a été rapide. Je veux juste vous dire que vous avez fait un super boulot. Et on va continuer à surveiller de très près ce qui reste de l'État islamique.
Donald Trump qui n'a pas rencontré lors de sa visite le premier ministre irakien puisque les autorités du pays ont été prévenues du déplacement 2 heures avant. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a prévu de se rendre à Bagdad le 11 janvier prochain. Le Parlement israélien a voté hier sa dissolution. Les élections législatives anticipées auront bien lieu le 9 avril prochain. C'est Benjamin Netanyahou qui a décidé la tenue de ces élections. Le Premier ministre n'a plus qu'une seule voix de majorité depuis la démission de son ministre de la Défense, Avigdor Lieberman. C'est un sujet qui concerne autant la France que la Belgique. Quel sort faut-il réserver aux combattants djihadistes capturés en Syrie? Quel sort faut-il réserver à leurs enfants qui ont la nationalité belge ou française? Eh bien, la justice a ordonné hier à l'État belge de faire rapatrier 6 enfants ainsi que leur mère. Ce sont des organisations de défense des droits de l'enfance qui sont à l'origine de la procédure. Ces enfants qui vivent aujourd'hui dans un camp de réfugiés tenu par des combattants kurdes. Angélique Bouin.
Ils sont le plus souvent nés sous le califat et personne ne mesure encore l'impact de leurs années d'endoctrinement sur leur avenir. C'est sans doute ce qui explique le peu d'empressement des gouvernements à les faire rentrer. Mais la justice belge a donc estimé qu'ils étaient en danger. Une décision saluée par le délégué général aux droits de l'enfant car, dit-il, elle pourra faire jurisprudence. Bernard De Vos estime à 160 environ les mineurs belges encore en zone de guerre.
C'est important aujourd'hui que tous les enfants puissent bénéficier de la même garantie d'exercice de leurs droits. Vous savez, aujourd'hui, si on ne fait rien, ces enfants ne sont enregistrés nulle part, ils sont apatrides. C'est très important de faire en sorte que ces enfants puissent rentrer tous, autant qu'ils sont, et pas seulement ceux qui sont concernés par le jugement.
Ce sont 2 épouses de combattants djihadistes, 2 jeunes femmes, belges, 3 enfants chacune, âgées de quelques mois à 6 ans, qui avaient saisi la justice. L'État a 40 jours pour leur fournir des documents d'identité et organiser de façon sécurisée leur rapatriement. Déjà condamnées, elles devront à leur retour purger leur peine de 5 ans de prison. En France, le gouvernement envisage aussi de rapatrier de jeunes enfants, mais sans leur mère. mères, elles doivent accepter de les laisser partir. Ceux qui ont commis des crimes en Irak ou en Syrie doivent être jugés sur place, estime le Quai d'Orsay.
Et la justice a donné à l'État belge 40 jours pour s'exécuter, pour rapatrier ses enfants. Au-delà, il y aura une astreinte de 5000 euros par jour de retard, ainsi que par enfant. C'est une libération qui met une nouvelle fois en lumière l'ampleur du trafic d'êtres humains en Amérique latine. En Bolivie, la police a retrouvé une femme de 45 ans, une femme originaire d'Argentine. Elle avait été enlevée à l'âge de 13 ans. Son calvaire aura donc duré plus de 3 décennies. Nadine Epstein.
C'est une unité spéciale de lutte contre le crime de la police nationale bolivienne qui a réussi à localiser la disparue après des mois d'enquête. La quadragénaire se trouvait dans une petite localité de l'extrême sud de la Bolivie, à la frontière avec l'Argentine. Originaire de Mar del Plata, à 400 km au sud de Buenos Aires, elle avait été kidnappée à l'âge de 13 ans par des trafiquants d'êtres humains. La vente de millions d'individus à des fins lucratives dans le monde est le troisième trafic le plus rémunérateur après le trafic de drogue et la contrefaçon. Selon l'ONU, il rapporte 32 milliards de dollars par an. Concernant l'Amérique latine, Interpol lance tous les deux ans une vaste opération Spartacus en coopération avec 25 pays. La dernière permit de sauver plus de 2700 personnes et de démanteler 7 réseaux de crimes organisés. Parmi les victimes retrouvées, 27 adolescentes étaient exploitées comme prostituées et main-d'œuvre au rabais. Plusieurs jeunes filles équatoriennes libérées ont expliqué qu'elles avaient été emmenées de force à la sortie de l'école, puis droguées, puis transportées hors du pays. Dans le monde, au moins 2,5 millions de personnes sont chaque année vendues comme de vulgaires marchandises. 80% sont des femmes et des enfants.
Nadine Epstein. Un exploit inédit dans un environnement extrême. Un ancien triathlète américain de 33 ans a réussi à traverser l'Antarctique du nord au sud en solo et sans assistance. Colin O'Brady a mis 54 jours au total pour parcourir en ski de fond, près de 1600 km. La météo, des nuages sur la façade ouest, ici en France bien sûr, un peu plus d'éclaircies partout ailleurs. Attention aux gelées ce matin dans le nord du pays, le long des Ardennes et en Bourgogne-Franche-Comté. Cet après-midi, on va monter pour les températures jusqu'à 13 degrés autour de la Méditerranée. On ne dépassera pas en revanche les 3 degrés dans le nord, Florian Delorme.
Merci Thomas Chéner, on vous retrouve à 7h30.